On accueille autour de cette table quatre représentants de l'intersyndicale avec pour la CGT Michel Sabatier, pour la CNT Daniel Tessier, pour Solidaire Sébastien Aulagnier et pour la FSU Ouria Delbosque. Voilà, j'ai fait court pour qu'on aille vite. Merci à tous les quatre d'être une nouvelle fois autour de cette table et bonjour.
Bonjour.
Alors on va peut-être on va revenir aujourd'hui sur la lutte contre ce projet de réforme des retraites voulu par le gouvernement actuel. On va peut-être faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque c'est vrai que des fois, au niveau des médias nationaux, on n'a pas toujours les retours souhaités. En tout cas, nous, ici, on va s'arrêter sur notre point local avec vous, et peut-être avec vous, Ouria Delbosque, sur la semaine qui vient de se passer. Il y avait une grosse semaine, trois grands rendez-vous, mercredi, jeudi et vendredi localement.
Effectivement, trois grands rendez-vous. Vous avez raison de dire que au niveau national, c'est pas tout à fait relayé. Nous, ce qu'on peut dire déjà, c'est que au niveau national, ce qui est relayé, c'est une sorte d'essoufflement du mouvement. Non, ce n'est pas un mouvement qui s'essouffle. Pour nous, c'est un mouvement qui change de forme, en fait, tout simplement, parce qu'il s'inscrit dans la durée et que face à la non-écoute, face au mépris qui est affiché, eh bien, on s'adapte, voilà. On s'adapte et on change de forme. Et effectivement, on a été assez dynamique et on a multiplié les actions. Donc, en termes de bilan, mercredi 22, on était sur une action symbolique devant l'inspection de l'éducation nationale. Donc, il y avait effectivement pas mal d'enseignants, mais on était rejoints par énormément de citoyens, hein, qui ne sont pas forcément des enseignants et qui nous ont aidés effectivement à construire ce mur symbolique de manuels périmés. Donc, et c'est une action qui a eu lieu à travers toute la France, c'est-à-dire que tous les corps de métier, et notamment ceux de la fonction publique, ont été invités devant des lieux symboliques qui représentent donc leur métier, à déposer leurs outils de travail. Voilà, leurs outils de travail.
Ça concernait la réforme de la retraite et puis ça concernait également les nouvelles épreuves, c'est ça du...
Et effectivement, il y avait aussi ce point-là qui était saillant, c'est-à-dire les épreuves du bac anticipé, les E3C, qui posaient énormément de problèmes aussi. Vous avez raison de le rappeler. Et du coup, voilà, on était nombreux, et c'était un temps assez fort, voilà, un temps symbolique assez fort. On a quand même réuni une centaine de personnes, voilà. Ensuite, il y a eu le lendemain, on s'est retrouvés à partir de 17h pour une manif nocturne au Flambeau. Là encore, une réussite.
Dans le centre-ville d'Aubenas.
Dans le centre-ville d'Aubenas, exactement. Nous étions près de 700. Là aussi, ça a réuni différentes personnes. C'est vrai qu'on se disait là, avant de commencer l'émission, qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs rendez-vous et puis le public change entre chaque rendez-vous. Voilà, donc 700 personnes un jour de semaine en plein hiver, c'est une réussite. Et ça montre effectivement que le mouvement, j'insiste, mais que le mouvement ne s'essouffle pas, mais il change. Et enfin, le vendredi, qui était un appel national fort, d'ailleurs le 23 aussi, il y a eu effectivement des manifs au Flambeau à travers toute la France, et qui ont réuni énormément de monde. Et le lendemain, le 24, donc la manifestation avec pour thématique « On se paye leur tête », donc effectivement un petit peu théâtralisé. On était déguisés on avait des masques de nos différents ministres. Et voilà, et on a pareil réuni énormément de monde pour une grève et une manifestation ce vendredi-là. Donc en fait, face au mépris du gouvernement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dégradation du dialogue, mais en fait, plus ils nous dénigrent et plus ça renforce notre détermination.
Oui, parce que le 24, c'est la journée, c'est le jour où le...
C'était une journée d'appel national de l'intersyndicale nationale.
C'est aussi le jour où la réforme a été présentée au gouvernement.
Effectivement, ça correspondait au Conseil des ministres, à la présentation de la loi au Conseil des ministres, en effet.
Donc ça veut dire que d'un côté, le gouvernement, lui, continue sa petite route et a l'air de ne pas regarder ce qui se passe au niveau de la rue, au niveau des syndicats. Quel est votre sentiment là-dessus ? Vous avez l'impression qu'il y a une tendance au pourrissement de la situation ? Je ne sais pas qui veut en parler.
Alors, je ne sais pas si je partirais.
Sébastien
Lanier. Oui, c'est moi. Je ne sais pas si je partirais sur la tendance au pourrissement, parce que je crois que là, justement, on en a déjà parlé. Moi, ce qui me paraît très important là, c'est d'essayer de revenir sur les mesures qui me paraissent phares, ouais, moi, et qui me posent réellement problème dans ce projet. Enfin, il y a deux chiffres qui sont très parlants, et puis il y a une phrase qui, à mon avis, pour moi, est quand même intolérable, soi-disant, il n'y aurait aucun perdant à cette réforme des retraites. Alors, c'est sûr qu'elle ne va pas s'appliquer de la même manière à tous les corps de métier et à toutes les personnes. Tout ça va être variable en fonction des fonctions et des différents métiers. Mais ceci dit, on peut essayer de globaliser tout ça. Globaliser tout ça, c'est essayer de remettre en perspective que le gouvernement souhaite limiter la part des dépenses à 14% pour les caisses de retraite du PIB. 14% du PIB. Ça veut dire qu'on va avoir globalement, en fait, une caisse qui va se retrouver limitée par rapport au PIB. Et je le mets en perspective avec la limitation de cotisation aussi. Il faut quand même savoir que les limitations de cotisation ont été fixées à 28%, ce qui n'était pas le cas dans les différentes professions. Il y a des professions qui étaient, par exemple, à 75%. Elles vont passer à 28%. Donc ça veut dire qu'en fait, on va encore diminuer l'apport dans cette caisse de retraite. Moi, je mets ça en perspective. J'essaye de globaliser encore une fois. Je mets ça en perspective avec le fait qu'il va y avoir de plus en plus de retraités. Et si on fait une caisse commune, parce qu'elle est commune, cette caisse, elle nous appartient à tous. Si on fait une caisse commune qui est de moins en moins alimentée et qu'il y a de plus en plus de personnes dessus, ben ça va toucher tout le monde. Et que le gouvernement se permette de dire qu'il n'y aura pas de perdants, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura pas de perdants. Donc ça, c'est un des premiers points qui me pose vraiment problème.
Pour rebondir sur ce que tu dis, le gouvernement affirme que c'est seulement les régimes spéciaux qui sont les premiers visés, mais en réalité, c'est le régime général, c'est-à-dire le futur régime unique qui va morfler, puisque les cotisations des régimes dits spéciaux seront payées par, seront mis dans le pot commun. Et donc, si les fonctionnaires ne cotisent pas au taux habituel et cotisent à 28%, la différence, eh bien, ce sera le régime général, le régime unique qui va être obligé de le combler. Donc, ce sera un moyen pour baisser l'ensemble des pensions. Et puis, parce que, en plus aussi, calculer les pensions sur toute la carrière au lieu des 25 meilleures années dans le privé, c'est, et les 6 derniers mois de salaire pour les fonctionnaires, ça, mathématiquement, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour voir
ce qui va se passer.
Que toutes les pensions vont baisser.
Pour quelques chiffres encore, parce que je suis. C'est peut-être mon côté prof de maths qui fait que j'en suis à ces chiffres-là. Mais le régime spécial de SNCF, c'est moins d'1% de l'ensemble des régimes. Donc en fait, on se focalise par exemple sur cette notion-là. L'ensemble des régimes spéciaux, c'est 6% de toute manière. Donc quand bien même on voudrait modifier tous ces régimes spéciaux, on ne fait pas face justement à l'ensemble des régimes. Et une dernière petite remarque, c'est que sur ces régimes spéciaux, en fait, on peut annoncer que certains régimes spéciaux seraient déficitaires. Ce n'est pas le problème de cotisation qui est déficitaire. Ce sont des régimes qui ont des problèmes démographiques plutôt. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs comparé au nombre de personnes. Parce qu'on a changé les métiers tout simplement. Mais faire basculer de toute manière toutes ces personnes-là dans un régime commun, on ne règle pas du tout le problème du financier. Ça n'a rien à voir. On a juste mis en commun. Ce qui peut paraître une bonne chose à la limite de mettre en commun. Ça, il faudrait voir après les règles qu'on met en place.
Daniel Tessier ou Michel Sabatier ?
Moi, je voudrais rajouter une chose. Quand on parle, quand l'on dit que tout le monde est touché, je voudrais rajouter une catégorie qui apparemment considère qu'elle ne sera pas touchée, ce sont les retraités actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en retraité, comme moi, on touche une pension. Bien sûr, cette réforme, elle ne reviendra pas sur les droits qui ont été acquis. Mais ma pension sera transformée en points, comme pour tous les autres. Et donc, il suffira tranquillement de faire baisser la valeur du point pour faire baisser la pension, comme pour tout le monde, pour les faire entrer dans les clous des 14%. Ça, c'est l'élément.
On nous a bien dit et redit qu'à partir de 75, on ne risque rien.
Ben non, toutes les catégories d'âge sont touchées directement, puisqu'on va basculer dans un régime unique, une caisse unique. Hein, on est en train d'ailleurs de supprimer petit à petit et de réunifier l'ensemble des caisses différentes dans le régime général. Parce que derrière toute cette réforme, il y a les fonds de pension. Il y a ce dont il y a défrayé la chronique et qu'il a défrayé encore, le groupe BlackRock qui est le plus gros financeur, etc., de la planète. Donc il s'agit de récupérer l'argent qui aujourd'hui passe de la poche de l'actif à la poche du retraité, de le faire passer par la case spéculation, fonds de pension, c'est ça, avec aucune espèce de garantie. à la sortie.
Et c'est pour ça qu'on baisse le livret A, par exemple ?
Oh, je pense qu'on peut baisser le livret A, mais il y a les cotisations pour au niveau des cadres, hein, qui vont être exonérées de cotisations au-delà d'un certain seuil, pour leur permettre d'aller justement vers eux directement, vers les fonds de pension.
Moi, je rajouterais juste que c'est vraiment une réforme idéologique. Il faut quand même revenir là-dessus, parce que le système actuel, il est fiable financièrement. Le Conseil d'orientation des retraites a juste spécifié que d'ici 2025, c'est quand même pas demain, hein, on a quand même un peu de temps pour mettre en place des modalités si on voulait. Mais d'ici 2025, ça serait en fait 0,3 à 0,7% du PIB dont on aurait besoin. Ça représente entre 8 et 17 milliards. Je suis désolé, c'est encore mon côté mathématicien. Mais en fait, il y a quand même 127 milliards dans les réserves actuellement. Donc ces 8 milliards, ce n'est pas une urgence face à tout ça.
C'est combien les montants des exonérations de charges sociales ?
C'est ce que j'allais ajouter. Il y a un allègement des cotisations patronales qui représente 52 milliards en 2019. Et le déficit des caisses de retraite en 2018, c'était 3,5 milliards. Donc voilà, quand on met en regard ces deux chiffres-là, on comprend bien, et je rejoins tout à fait ce que Sébastien vient de dire, c'est que c'est une réforme idéologique et économique. Mmh.
Ce qu'il ne supporte pas, c'est que des milliards d'euros ne passent pas passent directement de la poche des salariés qui cotisent à la poche des retraités sans transiter par le système bancaire.
Une petite phrase d'un camarade que j'ai trouvé plutôt sympathique. Il disait que tous ces financiers-là sentaient l'odeur de toutes ces caisses-là, mais ne pouvaient pas le toucher. Et ça, ça posait problème. Ça.
Donc il y a quand même... Encore et toujours, et peut-être qu'on ne le dit pas assez parce qu'on entend souvent parler, à un moment c'est d'âge pivot, à un moment on nous parle de régimes spéciaux, etc. Mais on est encore et toujours sur la consistance même de cette réforme qui est de passer en fait à une réforme à point. C'est plus qu'une réforme, c'est carrément un changement complet de fonctionnement. Est-ce qu'on a l'impression que tout le monde l'a déjà compris, ça, aujourd'hui ?
Alors, on ne sait pas si tout le monde l'a compris. Hein. Je pense que si tout le monde l'avait compris, aujourd'hui, l'ensemble des entreprises seraient en grève. Donc, il y a effectivement sûrement un déficit à ce niveau-là de la compréhension, et surtout de la compréhension que c'est dans la bataille qu'on va pouvoir faire arrêter ce projet. C'est dans le cadre de la grève qu'on va pouvoir faire arrêter ce projet. On sait que tout ce qu'on a acquis, parce que, à travers le régime des retraites, c'est l'ensemble des acquis sociaux issus de 36 et de 45 qui sont en train de disparaître. Mmh. C'est une volonté de ce qu'on appelle la bourgeoisie, du patronat, de supprimer tous ces droits, de manière à pouvoir librement exploiter l'ensemble des salariés dans notre pays. Ça se fait pas que dans notre pays, d'ailleurs. C'est à l'échelle de la planète, on est en train de remettre en cause la totalité des droits sociaux.
Un pont du MEDEF déclaré il y a quelques années d'ailleurs, il faut détricoter tout ce que le Conseil national de la résistance a mis en place au lendemain de la Deuxième Guerre.
En 2007, voilà. Exactement.
Voilà. Donc, ils poursuivent toujours le même objectif, c'est-à-dire qu'ils ont concédé des acquis au moment de la libération et après des luttes sociales. En plus, le patronat était totalement discrédité parce qu'il avait collaboré avec le régime nazi, le régime pétainiste. Et donc, il a bien sûr été obligé d'accorder ces acquis-là, mais en sachant très bien qu'il allait tout de suite se battre pour les reconquérir un à un. Et c'est dans leur logique de toujours, quoi, de vouloir reprendre ce qu'ils ont donné, quoi.
Ils veulent nous construire un modèle de société hyper individualiste. Et en fait, nous, c'est ce qu'on combat. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il faut replacer l'enjeu. Ce n'est pas une grève de cheminots ou de fonctionnaires ou d'enseignants qui veulent protéger leur précarité. Ce n'est pas une question d'âge pivot, d'âge départ, d'âge légal, d'âge d'équilibre. C'est on est en train de combattre un modèle hyper individualiste où chacun sera responsable de sa propre retraite. C'est-à-dire que si je n'ai pas assez... travailler, si je n'ai pas assez cotisé, je n'aurai pas assez de points et je vais avoir une retraite de misère. Et ça, c'est non, en fait. Les vieux dans la misère, on le chante assez souvent ces derniers temps, on n'en veut pas.
Voilà. Pour nous, la ligne rouge, c'est l'ensemble du projet. C'est l'ensemble du projet qui est à combattre de A à Z. On ne peut pas tolérer une telle... déconstruction de notre régime de protection sociale.
Allons-y rapidement parce qu'il faudra passer à la suite.
Je rajoute alors très très rapidement, l'avis qu'a rendu le Conseil d'État là dernièrement nous donne raison. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on dit que cette réforme est illisible, qu'elle est injuste, qu'elle est mal ficelée, enfin voilà, qu'elle n'est pas valable et ça nous donne raison.
C'est très flou, on va dire, c'est plus que flou.
C'est plus que flou et puis en plus elle est accompagnée de promesses notamment pour les agents de la fonction publique de les revaloriser, ça a été retoqué par le Conseil d'État. Ce ne sera pas possible, ce n'est pas vrai. Donc on nous balade.
Ils ne promettent pas de revaloriser les traitements des agents de la fonction publique, seulement le traitement des enseignants, les autres fonctionnaires.
Et des chercheurs. Tu as raison. On demande à ce que ce soit élargi à la fonction publique, tu as raison.
Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit retirée avant toute chose.
Absolument.
Avant toute discussion.
C'est le préalable. Il y a quand même quelque chose encore qui, moi, aujourd'hui, m'étonne. Je vous l'ai dit avant d'ouvrir ces micros, c'est qu'on a l'impression que dans le privé, les gens n'y vont pas. Moi, je pensais tout de suite aux routiers. On se dit que quand les routiers rentrent, ça bloque le pays. Les routiers n'y sont pas. Il y a beaucoup de sociétés privées où on ne voit pas vraiment les salariés partir dans cette grève. De la même manière, je ne vois pas beaucoup les jeunes, par exemple. Et là, je suis toujours assez étonné. Il y en a, mais je n'en vois pas énormément. Alors, on m'a dit qu'il y avait en ce moment des bacs, il y avait des sessions, etc., et que ce n'est pas facile dans l'université, etc. Est-ce que je me trompe dans ce regard ou pas?
Moi, j'aurais tendance à le rendre... Excuse-moi. Voilà, je me renvoie un peu la responsabilité en tant que responsable ou représentant syndical. Je crois que ça, c'était le travail de fond que l'on n'a pas réussi à mener pendant des années. Parce qu'en fait, ça fait quand même des années que l'on amène à faire penser que tout ça, ça serait pas possible. On a parlé de dette, on en parle beaucoup moins dernièrement, parce que quand les chiffres commencent à sortir, d'ailleurs, c'est différent. Mais tout ce lobbying qu'il y a eu, en fait, pendant des années, ça a amené, je crois, nos lycéens, étudiants, et puis toute une frange de la population à penser qu'ils auraient pas une bonne retraite, ou ils auraient pas de retraite, ou en tout cas que ça leur appartenait pas. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on essaye de travailler, mais ça, c'est vraiment un gros travail de fond, à mon avis.
Je crois que... Oui. Le pilonnage médiatique fait que depuis des mois et des mois, ce projet est le gouvernement utilise l'équité pour justifier son projet. Au nom de l'équité, il justifie, mettre tout dans un même régime, c'est-à-dire que les privilégiés des régimes dits spéciaux, d'abord, ils ne sont pas 42, il y en a 15, parce que des régimes spéciaux comme celui de la Seïta, où il y a 5 cotisants pour 8300 bénéficiaires, va disparaître par la force des choses, parce qu'il n'y a plus de Seïta. Donc voilà, ils utilisent n'importe quoi pour affirmer des choses qui ne tiennent pas la route. Donc, ils ont mis dans la tête des gens qui avaient les privilégiés, c'était les cheminots, c'était les fonctionnaires, les fonctionnaires en général. Et puis aussi, ils ont scindé les travailleurs du privé entre les différentes catégories d'âge. Ce n'est avant 75, ce n'est avant, je ne sais plus, il y a 3 catégories d'âge. Donc voilà, diviser pour régner, c'est une stratégie qui malheureusement est utilisée de toujours et qui fonctionne et qui laisse des traces aussi parmi la population. Parce que effectivement, comme je disais, on n'a peut-être pas assez... communiquer, mais des fois c'est difficile de combattre une heure de propagande télévisée, enfin une propagande de grands médias avec des simples tracts ou des émissions radio dans les radios associatives locales.
Et puis il faut dire aussi qu'on a un passif, c'est-à-dire qu'on a, dans les dernières batailles, on n'a pas gagné. Donc il manque la possibilité d'espoir. Donc aujourd'hui, on bataille comment? Bien dans les entreprises, on essaye, partout où on est présent, de convoquer les assemblées générales, de manière à ce que les salariés se réunissent et décident eux-mêmes du mouvement à engager ou à ne pas engager. Alors, c'est pas si simple que ça, mais aujourd'hui, et dans notre département, on commence à voir apparaître les premières assemblées générales dans les entreprises privées. Donc on va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Mais c'est un espoir.
Voilà, mais ils sont concernés aussi par cette réforme des retraites.
Mais directement, en premier lieu.
Un dernier mot. Il y a encore un appel aussi pour la semaine.
Ce sera mon dernier mot. le dernier mot, c'est que malgré tout, dans l'opinion publique, ça reste... Enfin, on a des chiffres l'ordre de 60-61% de personnes qui pensent qu'il faudrait retirer quand même cette réforme. Voilà. C'est énorme, après 3 semaines et tout, après 3 semaines, après un mois, et les désagréments que ça a causé au début.
Voilà, alors si vous ne pouvez pas venir manifester les lundis, les mardis, les jeudis, les vendredis, on peut venir le mercredi cette semaine, c'est ça?
Exactement.
Mercredi à 14h au Champ de Mars, à rendez-vous pour une manifestation dans le centre-ville d'Aubenas.
Ce choix aussi, d'autres moments, c'est aussi pour essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent venir.
C'est ce qu'on disait au début.
On considère que toutes les générations sont concernées, donc c'est notre appel, c'est de la poussette à la retraite. Tout le monde est concerné, donc tout le monde dans la rue avec les jeunes, les enfants n'ont pas d'excuses
pour ce mercredi après-midi.
Exactement. Voilà.
Après, c'est normal que la jeune génération ne se préoccupe pas directement de sa retraite. Parce qu'il faut quand même, si on se rappelle de moi quand j'étais jeune, je ne me préoccupais pas de la retraite. Bon, on a fait 68, mais bon, c'était autre chose.
Merci à tous les quatre. Alors, certains vont aller chercher des points pour leur prochaine retraite, si j'ai bien compris. Ils ont rendez-vous, on va vous laisser. Quitter le studio, Riyad El Bosk, Sébastien Olanier, merci d'être venu. Je vais me proposer à Daniel Tessier et à Michel Sabastier de rester avec nous pour la CNT et la CGT, et puis d'accueillir d'ici quelques instants deux autres personnes, notamment une salariée de Tène, Calisée Mandereau, et Anna Cooper, qui, elle, vient pour le moulinage de Chirol, tout simplement parce qu'on va parler du festival Ciné-Lutte dans la deuxième partie.